Bonjour à tous, c'est Denis Brognard. Vous écoutez Vie d'aventure, un podcast où je m'entretiens avec des hommes et des femmes aux destins extraordinaires. Des aventuriers, scientifiques, photographes, navigateurs, plongeurs ou encore alpinistes. Ils ont en commun une soif d'exploration. Je vais à leur rencontre, ils se confient sur leurs exploits, leurs expériences, en traduisant par des mots leurs émotions. Une photographie sonore avec des personnages hors normes qui forcent le respect par leur courage et la dimension de leur engagement. Ces héros des temps modernes vont vous transporter dans leur monde, vous permettre de vous évader et de réfléchir avec eux à l'évolution de notre planète. Prenez le temps de les écouter, ces baroudeurs, ces voyageurs. Voici tout de suite un nouvel invité dans Vie d'aventure. Rien ne prédisposait Bouchra Baïbanou à devenir aventurière. Cette Marocaine de 51 ans, ingénieure de profession, issue d'un milieu modeste, née au bord de la mer, est devenue une alpiniste chevronnée parce que, comme elle aime à le dire avec poésie, elle a osé rêver. En 8 ans, elle a gravi les points culminants des 7 continents, y compris l'Antarctique, les mythiques Seven Summits, avec en point d'orgue l'Everest. Elle est le premier Marocain, et je dis bien le premier Marocain à réaliser cet exploit, hommes et femmes confondus. Bouchra Baïbanou est une pionnière, un modèle pour les jeunes femmes de son pays qu'elle encourage à s'émanciper. Au Maroc, sa voix compte et ses performances lui donnent une vraie caisse de résonance. Bouchra Baïbanou est aujourd'hui mon invitée dans Vie d'aventure. Bonjour Bouchra.
Oui, bonjour Denis.
Comment l'alpinisme est venu jusqu'à toi? Parce que rien ne te prédisposait à cette activité-là. Toi, cette jeune fille vivant au bord de la mer, très loin des monts de l'Atlas.
La première fois que je découvre c'est quoi la randonnée, j'avais 15 ans, c'était aux colonies de vacances. Et donc, je découvre c'est quoi la marche dans la nature. Je ne savais pas à cette époque qu'il s'appelle de la randonnée. Par conséquent, j'ai commencé à refaire les colonies de vacances et ainsi je découvre par coïncidence cette passion-là de marcher dans la nature. J'étais très passionnée.
Et à 26 ans, eh bien, tu te lances dans le grand bain en réalisant l'ascension du plus haut mont au Maroc, le mont Toubkal, à 4167 mètres d'altitude, qui se trouve à une soixantaine de kilomètres au sud de Marrakech.
Je pars sans préparation, sans savoir de quoi il s'agit, sans équipement, sans rien du tout. Juste moi et une amie, et on part à l'ascension du plus haut sommet de l'Afrique du Nord, le Toubkal. Et quand j'ai atteint le sommet, 4165 mètres, c'est la première fois de ma vie que j'atteins cette altitude. J'étais émerveillée par la grandeur des espaces, un sentiment de liberté un peu spécial. J'étais vraiment très, très contente de vivre ces moments magnifiques. C'était la première fois de ma vie que je fais ça.
La passion est née. Est-ce qu'à ce moment-là, au Maroc, on regarde bizarrement une femme réaliser une performance comme celle-ci?
À cette époque-là, il n'y avait pas beaucoup de gens qui font des sommets, et en plus des femmes. Je me rappelle la première fois que j'ai arrivé au refuge à 3200 mètres avec mon ami, il y avait des gens de local qui me regardaient d'un œil un peu bizarre. Ils me disaient « Mais qu'est-ce que tu viens faire là ?» C'était un peu bizarre, oui, au départ, de voir une fille qui s'aventure.
Est-ce qu'il y a aussi, dans ta démarche, le souci de mettre en avant la femme, d'émanciper la femme dans un pays comme le Maroc ?
Quand j'ai commencé, j'avais pas cette idée-là du tout. Je ne suis jamais été militante pour les droits de femmes ou bien pour être féministe, pas du tout. C'était juste ma passion qui me poussait, qui m'animait pour gravir des sommets, sans vraiment rendre compte que je suis une femme et que je suis différente de l'homme. Bien sûr, j'ai confronté plusieurs obstacles. Il y avait mes parents qui se souciaient de moi, qui me disaient « il faut faire attention, pourquoi tu pars dans la montagne toute seule ?» Mais j'ai jamais pensé que ça va être un combat pour moi pour militer pour les droits des femmes et tout.
En mars 2011, tu décides de partir avec ton mari pour réaliser l'ascension du Kilimandjaro en Tanzanie, ascension à 5895 mètres. Et là, l'histoire est jolie parce que tes amis ne comprennent pas, hein, que tu mettes pas de l'argent pour acheter une maison, mais que tu mettes cet argent pour réaliser ce rêve de gravir le Kilimandjaro. Ça n'a pas été facile, hein, de faire comprendre aux autres qu'avec l'homme de ta vie, tu avais beaucoup plus envie d'évasion, de grands espaces que d'une maison.
Oui, exactement. C'était un peu bizarre parce que tout le monde s'attendait qu'en faisant des économies pour acheter une maison ou bien pour acheter une voiture, des choses matérielles. Mais quand moi j'ai fait des économies et j'ai dit à mon mari, je l'ai convaincu, voilà, on a l'argent, on a le temps, on a l'énergie, on a la force, on a la santé, et pourquoi pas ne pas aller gravir le plus haut sommet de l'Afrique. C'était le premier sommet qui est venu à mon esprit après avoir gravi plusieurs sommets au Maroc. Je suis sur le continent africain et par conséquent, j'ai pensé au plus haut sommet de l'Afrique. Et cette époque-là, c'était un peu bizarre de s'aventurer comme ça, mais mon mari, il a été convaincu. J'étais contente parce que il est parti avec moi et c'est là qu'il découvre avec moi c'est quoi cette sensation forte d'atteindre un toit, de voir le paysage grandiose, d'être sur le point culminant de l'Afrique. Et c'était vraiment extraordinaire comme sensation. Et j'ai eu son accord et son appui. Donc, il a vu que j'étais très passionnée et que j'ai arrivé, on peut dire, facilement au sommet. Et donc, il a su que j'ai des potentiels et il m'a beaucoup encouragée.
Est-ce qu'on est, Bouchra, plus amoureux encore quand on est avec son mari à pratiquement 6000 mètres d'altitude, qu'on domine l'Afrique au sommet du Kilimandjaro?
Plus amoureux peut-être, oui, parce que on passe des moments un peu spéciaux entre nous, pas comme dans la vie quotidienne. On se découvre mutuellement et quand je le retrouve toujours avec moi, en me soutenant dans les moments difficiles, dans les moments où je suis prête à lâcher, à ne pas continuer, il était là pour me dire non, tu peux, tu continues, pour me soutenir, oui. On devient plus amoureux. Et d'ailleurs, il a parti avec moi aussi au camp de base de l'Everest pour me souhaiter bon courage quand
Ouais.
j'ai parti pour gravir l'Everest.
Le Kilimandjaro, c'est le premier de ces sept sommets, hein, les points culminants des sept continents. Et c'est véritablement à ce moment-là, dans cette randonnée, que tu te décides à partir à l'aventure pour un à un gravir les autres sommets. Mais sans compétence à l'époque, puisque ce soit le mont Toubkal ou le Kilimandjaro, c'est pas encore de l'alpinisme, c'est de la grande randonnée.
À cette époque-là, j'étais pas alpiniste, je faisais de la randonnée. Pour que mon rêve se réalise, il faut que j'apprenne l'alpinisme.
Et donc tu pars sur le Mont Blanc à ce moment-là.
J'ai parti en France, à Chamonix. J'ai fait un stage en alpinisme et nous sommes montés pour gravir le Mont Blanc. Et là, quand j'ai atteint le sommet, dans des conditions un peu difficiles, il y avait beaucoup de vent, de la tempête, là, je découvre que j'ai de la capacité, j'ai du potentiel et j'ai acquis plus de confiance en moi parce que au départ j'avais peur de ce projet-là. Je disais que peut-être je peux pas, j'ai jamais fait d'alpinisme et donc j'étais contente quand j'ai atteint le sommet et là ça m'a boostée pour continuer et pour aller après gravir un à un les six sommets qui me restaient.
Bouchra, il y a une phrase que tu dis régulièrement que je trouve absolument magnifique. Tu dis, pour expliquer pourquoi tu as réussi finalement, j'ai osé rêver. C'est compliqué d'oser rêver?
Ça dépend des endroits, des conditions. Je suis née d'une famille qui n'est pas très riche, et donc j'avais pas beaucoup d'argent. Et le projet-là, c'était un projet qui est vraiment très très coûteux. Et quand j'ai rencontré le projet des 700 mètres, j'ai dit « why not ? Pourquoi ne pas appliquer ce que j'ai appris ?» Je peux vous garantir que ça marche. Si vraiment on y croit vraiment et on donne le tout, on peut réaliser nos rêves.
C'est un formidable message d'espoir et on reviendra aussi à cette belle leçon de vie que tu essayes de transmettre aux autres et notamment aux jeunes femmes marocaines. Mais d'abord, on se retrouve en juin 2012 et là tu pars pour le Caucase en Russie pour gravir le plus haut sommet d'Europe à 5642 mètres d'altitude, le mont Elbrouz. C'est le deuxième des sept sommets et là on rentre de plein pied dans le véritable alpinisme. Est-ce que ça a été difficile ?
La veille, il y avait beaucoup de tempêtes et les gens n'ont pas réussi le sommet. Alors, j'ai dit, si le climat est bon, je vais faire de mon mieux. Et heureusement, le lendemain, la journée était parfaite et nous avons atteint le sommet. Ça, c'était un autre bonus pour ma confiance en moi.
Quand tu arrives en haut du mont Elbrouz, tu brandis un drapeau marocain. Il y a aussi cette fierté de représenter ton pays. Et les femmes marocaines en particulier ?
La première chose que j'ai apportée avec moi dans le sac, c'était mon drapeau, le drapeau du Maroc. J'étais fière de représenter mon pays, donc j'ai brandi le drapeau au sommet de Kilimanjaro, au sommet d'Elbrouz. En tant que Marocain, c'est tout. Je ne pensais pas pour les femmes, c'est surtout pour le Maroc.
Alors ensuite, on change de continent, on se retrouve en Amérique du Sud, avec le plus haut sommet de tout le continent américain, l'Aconcagua, à la frontière entre l'Argentine et le Chili, 6962 mètres d'altitude. En janvier 2014, tu réussis, mais il ne faut pas oublier qu'en 2012, tu avais déjà tenté et que là, tu avais connu un échec. Est-ce qu'en 2012, tu as eu envie de baisser les bras ?
Oui, exactement. J'avais cette idée-là parce que c'était la première fois que je découvre c'est quoi la haute altitude, c'est quoi les tempêtes, le vent et tout. Et il fallait aussi que je porte mon sac qui était assez lourd, 25 kilos. J'avais l'habitude de trouver les mules qui me portaient mes bagages. Et donc, je rencontre vraiment l'aventure réelle. Et c'est là que je découvre c'est quoi marcher dans ces altitudes. Et j'ai pas réussi le sommet, il y avait beaucoup de tempêtes et le vent était vraiment dégradé. Et donc, quand j'ai retourné, j'ai dit « bravo, tu as essayé, tu n'as pas réussi, c'est pas grave, mais ça y est, tu as atteint tes limites ». Et là, je découvre, après quelques heures, j'ai pleuré, j'ai pris ma décision de me retirer. Et après quelques heures, je sors de ma tente pour découvrir que 90% des alpinistes ce jour-là n'ont pas pu atteindre le sommet. Et c'est là que j'ai compris que c'est ça la montagne. Si jamais il y a la tempête, c'est pas parce que tu n'es pas performant, mais il faut accepter, il faut se retirer pour revenir après avec force. Et donc, je retournais, je commençais à travailler très dur. Et là, je tire la leçon qu'il n'y a pas d'échec dans la vie, il n'y a que des expériences.
Alors, tu réussis l'Aconcagua et te voilà en Amérique du Nord, en Alaska, pour tenter l'ascension du mont McKinley, qu'on appelle aujourd'hui le Denali, 6190 mètres d'altitude. C'est le quatrième des sept sommets. Et ce qui est intéressant là, c'est que vous êtes six et que c'est une équipe multiculturelle, une équipe très cosmopolite, avec les États-Unis, la Pologne, l'Angleterre et bien sûr le Maroc représentés.
Oui, en fait, le Denali, le plus haut sommet de l'Amérique du Nord, c'est un sommet qui est un peu spécial parce que j'avais peur. Avant de partir, je me suis dit, est-ce que je suis capable de tirer un traîneau de 30 kilos, de prendre mon sac de 25-28 kilos et de monter dans des conditions extrêmes? J'ai jamais vécu ça avant et je ne savais pas si je pouvais le faire, mais pour affronter nos peurs, il faut passer à l'action. Et donc, c'est ce que j'ai commencé de faire. Je me suis commencé à m'entraîner très, très dur, à faire de la musculation, à porter un sac très lourd, à partir à la plage pour tirer, pour bien me préparer. J'avais très peur au départ et j'ai dit, est-ce que je vais y arriver ou pas? Et quand on a commencé, ça y est, j'ai senti que j'ai la force pour continuer. Et donc, j'étais contente quand j'ai atteint le camp 1. Après 8 heures de marche, j'ai réussi à arriver avec un poids très lourd. Ça, j'ai dit, Bouchra, je crois que tu peux y arriver. Vraiment, c'était un sommet qui est très dur, qui demande beaucoup d'efforts, beaucoup de persévérance.
Bouchra, qu'est-ce qui prédomine dans ta réussite? Ta force mentale ou ta force physique?
En fait, il faut avoir les deux. La force mentale est très très importante parce que en Denali, par exemple, il y avait un homme qui était avec moi et qui fait le double de ma taille, qui était très très fort. Et je ne m'attendais pas qu'il se retire après 3 jours de marche parce qu'il était très fort, mais n'était pas très fort psychiquement. Et donc, il n'a pas pu supporter les conditions climatiques très difficiles et il s'est retiré. Donc, la force mentale est très importante dans la montagne parce qu'il faut vraiment être très motivé tout le temps. Là, on est loin de chez nous, il n'y a personne qui va nous motiver. Et d'ailleurs, j'ai commencé aussi, avant de partir, à travailler sur ça. J'ai fait de méditation aussi, je fais du yoga. En plus de l'entraînement physique que je fais chaque jour, j'avais un planning de travailler 2-3 heures par jour pour être bien en forme.
Bouchra, réponds-moi franchement. Est-ce que dans un pays comme le Maroc, certains aussi ont critiqué ton initiative, le fait que ce n'était pas forcément la place d'une femme que de gravir les plus hauts et les plus difficiles sommets du monde?
C'est très logique parce que, tu sais, nous, au Maroc, un pays musulman avec des traditions aussi et tout, la femme, pour la majorité, c'est qu'elle soit au service de sa famille, qu'elle se sacrifie pour sa famille et tout. Quand il me voit laisser ma famille pour partir, aller où? Pour gravir un sommet. Il ne comprenait pas du tout la philosophie derrière. Il disait peut-être si c'est un travail ou bien si c'est une mission, ça peut être explicable. Mais aller comme ça dans la nature, gravir un sommet, affronter la mort, les difficultés et tout, pour quelle raison? C'était un peu dur au départ, il fallait que j'explique à chaque fois pourquoi je fais ça, pourquoi je veux faire ça. Et surtout pour moi, c'était les plus proches, la famille. Sinon, je fais pas beaucoup attention aux autres personnes parce que j'ai dit, moi, je suis libre de choisir ma vie comme je veux. Et si mon mari, ma famille me soutient, c'est le plus important pour moi, pour que mon objectif soit écologique, parce que je ne vais pas laisser ma vie de famille au détriment de ma vie d'aventurière et d'alpiniste. Il fallait changer beaucoup des préjugés envers la femme, des personnes qui me sous-estimaient, qui disaient que je ne vais pas y réussir. Mais voilà, je réponds toujours par des actes, je préfère.
Bouchra, je précise que tu es musulmane, pratiquante, que tu es voilée dans la vie de tous les jours. Est-ce que tu as réalisé toutes tes ascensions avec ton voile?
Oui, avec mon voile. J'ai jamais ôté mon voile parce que ça fait partie de moi, ça fait partie de mon identité, ça fait partie de mes libertés aussi. Je sens que je suis libre et la liberté, ça se manifeste dans toutes les parties de la vie. Être libre de choisir ma religion, être libre de choisir mes habits, mes convictions, de choisir aussi mes passions, de choisir mes objectifs de la vie. Et donc, c'est cette liberté-là. Moi, je trouve, tant que je suis musulmane, je suis convaincante, c'est moi qui ai mis le voile, personne ne m'a obligée de le mettre et personne ne m'a obligée de choisir ma conviction. Donc, j'étais libre. Parfois, je rigole et je dis que quand on est dans la haute altitude, on est tous voilés. On ne peut pas distinguer une femme d'un homme. Tout le monde met quelque chose sur la tête pour se protéger du froid. Et par conséquent, je n'avais pas ce problème-là du tout.
C'est un beau message pour la femme musulmane. Cette liberté que tu revendiques sur tes aventures.
Oui, en fait, la femme musulmane est aussi une femme qui n'est pas soumise. Parce que parfois, quand ils me voient, moi, avec le voile, ils croient que je suis une femme musulmane, soumise. C'est comme ça qu'on définit parfois la femme musulmane. Alors, moi, je veux bien dire que la femme musulmane, c'est une femme libre. C'est une femme qui a beaucoup de personnalité et de volonté et qu'elle peut se réaliser dans plusieurs domaines. Et là, c'est la preuve concrète que moi, je suis voilée, je suis musulmane et je peux réaliser des choses que la majorité des hommes hésitent de le faire. C'est un message que je veux donner aussi à la femme, de se libérer, d'être elle-même, de s'affirmer et de réaliser ses rêves parce qu'il est libre de choisir ce qu'il veut dans la vie.
Franchement, Bouchra, est-ce que tu as l'impression, exploit après exploit, d'avoir amélioré la condition de la femme dans ton pays, le Maroc?
Je peux dire que j'ai contribué à ma façon d'améliorer la situation de la femme. C'est vrai et c'est un combat qui n'est pas facile et ça demande beaucoup de temps. Mais à chaque fois qu'on réussit à avoir des droits, ça améliore la vie pour la génération future. Je ne suis pas une superwoman avec une baguette magique qui va changer les choses, mais comme on dit en escalade, j'ouvre une voie et j'essaie d'ouvrir cette voie-là pour les jeunes filles. La situation s'est beaucoup améliorée et on trouve maintenant beaucoup de femmes qui partent pour gravir aussi des sommets à l'extérieur du Maroc.
Nous sommes maintenant en novembre 2015. Tu te retrouves dans une des régions les plus reculées du monde, en Indonésie, plus particulièrement en Nouvelle-Guinée, sur le territoire des Papous. Et là, tu veux gravir le point culminant de l'Océanie, le Puncak Jaya, à 4884 mètres d'altitude. Alors évidemment, il y a l'exploit sportif, il y a l'ascension, mais il y a aussi les rencontres. Et je crois que là, tu as été particulièrement touché par ce contact très privilégié que tu as eu avec des tribus reculées qui vivent en pleine jungle.
Oui, c'était vraiment une expédition magnifique, parmi mes meilleures que j'ai fait. Cette rencontre-là avec les tribus, ce que j'ai adoré, c'est qu'elles étaient nos porteurs. Et donc, j'avais l'occasion de vivre avec eux pendant presque 3 semaines. On parlait, on rigolait. Le plus magnifique, c'est que je ne comprends pas leur langue. Et eux aussi, ils ne comprennent pas ma langue. Mais on communiquait. On peut communiquer avec les sentiments. Et je leur envoyais beaucoup d'amour. Et ils sentaient ça. D'ailleurs, parfois, ils partent pour récolter des fruits. Ils me l'apportent. Ils partagent avec moi. Je partage aussi mes repas avec eux. La vie des tribus, c'est vraiment différent de notre vie. Il y avait une façon de partage magnifique entre eux. Quand je pars, ce n'est pas seulement le sommet qui est important, mais c'est le chemin. Parce que c'est au cours de ces ascensions-là que je rencontre les personnes, que je découvre des civilisations qui sont différentes des nôtres. Et on commence à respecter l'autre, à avoir beaucoup de tolérance et de respect pour tout le monde, peu importe la langue, peu importe la religion, peu importe les traditions. On s'enrichit les uns des autres. Et c'est le message que je veux partager avec les gens.
Franchement, Bouchra, dans ces tribus, ils ont quand même dû être surpris de voir une femme à la tête d'une expédition comme celle-ci.
Je peux t'assurer qu'ils ont beaucoup d'ouverture d'esprit. Et le plus important, c'est que personne ne fait attention au statut, ou bien que tu es une femme, ou tu es un homme, ou tu es musulmane, ou tu es chrétien. C'est... Parfois, on fait abstraction de toutes ces classifications et on se rencontre en tant qu'humain. Et je crois que c'est le plus important.
On en est à 5 sommets, il en reste 2. Et l'avant-dernier, c'est le plus beau, c'est le plus mythique, c'est le toit du monde. C'est le plus haut sommet de notre planète, en Asie. L'Everest, 8848 mètres. que tu atteins le 21 mai 2017. Tu es la première Marocaine, la première Nord-Africaine sur le toit du monde. Quel sentiment t'anime au moment où tu es tout en haut, où tu arrives au sommet de l'Everest?
Quand j'ai atteint le sommet de l'Everest, le sentiment qui m'est venu à l'esprit, c'était le sentiment de liberté. C'était extraordinaire de vivre ces sentiments-là, cette sensation d'être sur le toit du monde, de voir le paysage si grandiose, les sommets de 8000 au-dessous de nous. Mais l'autre sentiment qui m'est venu aussi, c'est l'humilité. Je me suis sentie toute petite devant la grandeur qui était au-dessous de moi. Et beaucoup de gratitude de pouvoir réaliser ce challenge, d'arriver jusqu'au sommet. C'était magnifique. Quand je me rappelle tout ça, je me rends compte que c'était vraiment très, très beau et magnifique comme expédition.
Concrètement, comment ça s'est passé quand tu es arrivé en haut? Raconte-nous ta joie.
Quand on a commencé la marche, il y avait beaucoup de tempêtes et il faisait très froid. C'est presque moins 50 degrés avec un vent pas très fort, mais aux alentours de 60 km à l'heure. C'était beaucoup de douleur, de dépassement de soi. Et je me suis très concentrée sur mes pas. Chaque pas m'approche de mon objectif. C'était mon rêve depuis des années. Il est tout proche de moi. Et donc, j'ai continué. J'étais très motivée. Et quand j'ai atteint le sommet, c'était très beau. Il y avait aussi le lever de soleil. Et c'était majestueux, vraiment. Le problème qui est arrivé, c'est que j'avais mes lunettes qui étaient gelées, donc je les ai enlevées et j'étais aveuglée par les rayons ultraviolets. Et donc, il fallait que je descende rapidement. Et là, il est arrivé quelque chose qui est un peu difficile, c'est que quand j'ai arrivé à Hillary Step, j'ai glissé parce que je ne voyais pas où je mettais les pieds. Et là, j'ai cru que je vais mourir. Quand j'ai commencé la descente, c'est comme de la survie. On commence à dire, il faut que j'arrive au contact, que je me sauve, c'est tout.
Quel chemin parcouru, Bouchra, depuis ces premières randonnées lorsque tu étais petite fille en colonie de vacances? Tu prends conscience de tout ça au sommet de l'Everest?
À vrai dire, non. J'étais comme en mode de survie. Je n'avais pas des sentiments qui sont vifs. Je me suis pas rendu compte que j'étais la première femme marocaine. J'ai pas dit waouh, mais c'était plus des sentiments très forts d'humilité, de gratitude. Et quand j'ai retourné, c'est là que je me rends compte que c'était vraiment un chemin, comme tu as dit, très très long depuis le Toubkal pour arriver au toit du monde. J'ai jamais pensé qu'un jour, moi, Bouchra, je peux être sur le sommet du monde. J'avais besoin de quelque temps pour vraiment me rendre compte que j'étais sur le toit du monde.
L'Everest, c'est fait. On en est à 6 sommets. Il en reste un. Le point culminant de l'Antarctique à 4892 mètres, le mont Winson. Et là, tout un symbole, tu réalises l'ascension avec 3 autres femmes. Une Indienne, une Norvégienne et une Canadienne.
Oui, c'était vraiment magnifique parce que c'est la première fois de ma vie que je me retrouve dans une expédition où il n'y a que des femmes. Parfois, j'étais la seule femme dans le groupe. On était toujours des minorités. Et là, je me rencontre avec une expédition 100% féminine. Et c'était différent des autres expéditions parce que quand on parle, nous, les femmes, entre nous, on parle de nos enfants, on parle de notre vie familiale, on parle des sentiments. C'est différent parce que quand on parle avec les hommes, on parle plus des exploits, des performances. On rigolait, on disait, on était 4 continents, plus avec notre guide qui était de l'Amérique du Sud. Donc, 5 continents sur un 6e continent. Donc, c'était vraiment très diversifié. Et c'était beaucoup d'échanges et c'était magnifique. Surtout, être sur l'Antarctique, pour moi, c'était un rêve. Quand j'étais jeune, je lisais sur l'Antarctique et j'ai jamais pensé qu'un jour, je vais y être. Et d'ailleurs, quand j'étais là-bas, je me peine si je dis je rêve ou c'est bien de la réalité. Je suis sur l'Antarctique, c'est un continent mythique. Pour moi, c'était juste pour les autres. Et voilà, je suis là et je vis des moments vraiment très forts parce que gravir le sommet dans des conditions de l'Antarctique avec le vent, le froid, qui parfois il atteint moins 30, moins 40 degrés, c'était génial.
Ce qui me fascine, Bouchra, quand je t'écoute nous raconter tes exploits, tes expéditions, c'est ta capacité à t'émerveiller, ta capacité à enregistrer tout ce que tu vois, tout ce que tu ressens. Est-ce que tu as l'impression d'être une grande privilégiée aujourd'hui ?
Je sens que je suis privilégiée de vivre tous ces moments-là, d'aller sur les 7 continents, de visiter des pays très éloignés, de gravir des sommets. Les gens qui ont pu atteindre les 7 sommets sont moins de 400 personnes dans le monde entier. Donc vraiment, être parmi ces 400 personnes, c'est un privilège. Et être émerveillé, oui, parce que on n'a pas chaque jour cette chance-là d'être ailleurs, de vivre ces moments. Par exemple, sur l'Antarctique, où personne ne vit à l'intérieur de ce continent, on était l'été et c'était 24 heures sur 24, le soleil, il y avait le soleil de minuit et tout, et c'était magnifique. Un jour, je me suis réveillée à 2 heures du matin, où tout le monde dormait, et j'ai sorti pour écouter le silence. J'ai enregistré ça. J'ai dit, voilà, on écoute le silence, c'est 100% de silence, et il n'y avait pas de vent. C'était magnifique d'écouter le silence. Et donc, à chaque fois, il faut avoir cet œil de voir quelque chose de nouveau, de s'émerveiller de toute chose dans la vie. Même dans la vie courante, on peut avoir ça. Parce que chaque lever de soleil, chaque coucher de soleil, c'est quelque chose de particulier, de quelque chose de merveilleux. Avec l'habitude, on perd cette sensation de s'émerveiller de chaque chose qu'on a dans la vie, par routine, par habitude.
Tu dis, j'ai été une pionnière, il a fallu ouvrir des portes, et tu dis aussi, j'espère être un modèle. Est-ce que tu es convaincue d'être un modèle aujourd'hui après tout ce que tu as réalisé ?
Oui, j'essaie d'ouvrir aussi les voies pour les autres filles, pour qu'elles aussi, elles s'affirment, qu'elles aussi, elles réalisent leurs rêves. Je voudrais leur montrer qu'elles sont libres de choisir ce qu'elles veulent. Même si je suis une femme, j'ai pu faire des choses que la majorité n'ont pas pu faire au Maroc. Et donc, ça montre que la femme, elle a aussi beaucoup de potentiel. Et elle aussi, elle peut réaliser des choses. Et donc, elle n'est pas là pour seulement être au service des autres, mais elle est là pour vivre sa vie et pour choisir sa voie à elle.
Tu penses, Bouchra, que tes exploits ont permis aux femmes au Maroc, de faire un pas supplémentaire vers la liberté et vers l'égalité avec les hommes ?
Oui, j'espère. Je ne suis pas sûre, mais je fais de mon mieux. Parfois, on peut inspirer les autres par les gestes, pas seulement avec les paroles. Et quand maintenant les jeunes filles et les femmes voient qu'une femme a pu réaliser une chose exceptionnelle, ça les inspire aussi. Ça les inspire à réaliser aussi leurs rêves, à dire oui à la vie. Parfois, je rencontre des femmes quand je donne des conférences et qu'elles viennent vers moi pour me dire « Bouchra, maintenant, je crois que je vais faire moi aussi quelque chose d'exceptionnel. » J'ai dit « Oui, tu peux le faire. Vas-y, il faut foncer. Il faut que tu crois en toi. Si on ne croit pas en nous, personne ne va croire en nous. Donc, il faut croire en ton rêve. » Et bien sûr, les portes, elles vont s'ouvrir.
Quel magnifique message d'espoir. Alors, tu traduis ça évidemment par des actes, puisque tu es revenu à tes premières amours, le mont Toubkal, le point culminant du Maroc, où tu es reparti avec des jeunes filles de 14 à 18 ans. Vous avez réussi l'ascension pour leur prouver, dis-tu, qu'elles peuvent réussir si elles ont du courage, de l'optimisme, de la persévérance, de la détermination et de l'humilité.
Exactement. Ce challenge que j'ai réalisé avec les jeunes filles, l'objectif, c'était pas d'atteindre le sommet de Toubkal, mais plus qu'elle atteint leur sommet à elle, qu'ils découvrent qu'ils ont beaucoup de potentiel, ça va leur donner le déclic qu'ils peuvent réaliser tout ce qu'ils veulent dans leur vie, qu'il n'y a pas des obstacles. Et c'était le message que je voulais partager avec ces filles-là. Et je suis vraiment très contente de me rendre compte après que peut-être que j'ai réussi à changer quelque chose dans leur vie. Maintenant, ils ont plus confiance en elles, qu'ils veulent continuer leur étude parce qu'on amène aussi des jeunes filles des villages. À 18 ans, ils partent pour se marier, pour avoir des enfants. Alors là, je leur dis non, vous pouvez vivre votre vie à vous. Et je suis vraiment très touchée quand ces jeunes filles m'appellent par la suite pour me dire voilà, Bouchra, on a essayé, on va faire ça. Je sens que au moins j'ai réussi à changer leur vision sur la vie.
Quand on te demande si tu es féministe, tu réponds non, je suis une femme libre. Qu'entends-tu par là et quelle différence fais-tu entre la féministe et la femme libre ?
Oui, je suis pas féministe parce que moi je considère être féministe, c'est il faut lutter pour tes droits, il faut que tu sois dans la confrontation avec l'homme. Et pour moi, l'homme, c'est mon allié, c'est mon mari, c'est mon père, c'est mon frère, c'est les guides qui partent avec moi, c'est les autres alpinistes qui étaient avec moi aussi des hommes. Et donc je suis pas en combat avec eux. Plus je suis une femme libre. J'ai le droit de rêver, j'ai le droit de choisir ma voie, j'ai le droit de faire ce que je veux. Je suis libre. Quand j'ai voulu réaliser mon rêve, j'ai pas pensé que je suis une femme, je peux pas le faire, non. C'était mon rêve et j'ai commencé à dire qu'est-ce que je dois faire, quelles sont les compétences que je dois développer pour le réaliser. C'est pas parce que je suis une femme que je peux pas le faire. Et donc, c'est pour ça que j'opte pour être une femme libre.
Les femmes que tu rencontres dans la rue, lors des conférences que tu donnes, elles ont les yeux qui brillent lorsqu'elles te parlent? Elles t'envient?
Ils ont les yeux qui brillent, oui. Chacune doit trouver ce qu'il veut réaliser et il doit vraiment trouver sa passion. Et s'ils suivent la passion qui l'anime, il va trouver vraiment sa voie à elle et sa mission de vie.
Alors, tu as 51 ans, Bouchra, aujourd'hui, tu es ingénieur dans un ministère, et je suis persuadé qu'après avoir réalisé ces 7 ascensions, tu as d'autres buts, d'autres aventures qui sont en train de jaillir dans ta tête. C'est quoi l'avenir de l'aventurière Bouchra ?
Je rêve depuis des années de faire un autre sommet de 8000 aussi, et je voulais partir à l'Himalaya pour faire un autre sommet plus de 8000.
Lequel ?
Cette année, j'avais prévu de faire le Chuyu, mais avec le Covid, j'ai renoncé au projet. Mais l'année prochaine, si je réussis à avoir aussi le financement, le sponsoring, je veux aller faire l'Annapurna. Je veux bien faire un ou deux ou trois sommets de plus de 8000. Voilà, pour le moment, c'est mon rêve. Et c'est ce que je souhaite, Inch'Allah, faire.
Bouchra, ta fille grandit, c'est une adolescente. Tu avais débuté ces 7 sommets avec ton mari. Est-ce qu'on peut imaginer une aventure familiale ?
Peut-être que je peux un jour envisager d'aller faire le Kilimanjaro. C'est un sommet qui n'est pas très difficile, mais je ne crois pas que je vais y aller vers des sommets trop difficiles avec ma famille.
Quel est le regard de ton mari aujourd'hui ? Lui qui avait débuté cette aventure avec toi au Kilimandjaro.
Elle est très fière de moi et vraiment, à chaque fois, je vois de l'admiration dans ses yeux et à chaque fois, il m'encourage, il fait beaucoup de preuves d'amour et surtout de respect pour mon choix, pour ce que je fais. C'est un message qui est très, très important de montrer au Maroc que les hommes aussi, ils respectent les femmes et qu'ils peuvent les soutenir pour réussir leurs rêves. Et mon mari, c'est un exemple pour beaucoup des hommes, pour laisser leurs femmes se réaliser et s'affirmer.
Est-ce qu'on pourrait imaginer un jour te retrouver dans une fonction plus officielle, politique, pour faire peut-être encore plus bouger les choses à partir de ta propre expérience?
J'essaie de faire bouger les choses au Maroc, mais si jamais l'opportunité arrive, je peux l'accepter parce que moi, je suis ouverte à toutes les choses que la vie m'offre. Et d'ailleurs, cette sommet-là, c'était un cadeau que l'univers m'a donné et j'étais ouverte à l'accueillir. Et donc, je suis ouverte pour accueillir toutes les choses qui peuvent venir si ça va m'aider à réaliser ma mission de vie.
Bouchra, ton parcours de vie me fait penser un petit peu à celui d'une autre femme qui a bousculé les codes au Maroc et qui a été ministre des Sports notamment et président du comité olympique. C'est Nawal El Moutawakil, la première médaillée championne olympique d'Afrique du Nord. C'était sur 400 mètres haies à Los Angeles en 1984, ça remonte à il y a longtemps maintenant. Est-ce que tu pourrais embrasser un destin comme le sien?
Oui, oui, vraiment c'est un exemple pour moi. J'espère que peut-être un jour, je peux moi aussi faire des choses et pour avancer surtout la cause de la femme.
Bouchra Baïbanou, merci infiniment. Quelle fraîcheur, quelle générosité. Tu as ouvert, on s'en rend compte, des portes qui semblaient fermées à double tour. Et ton action, on t'entend, dépasse largement l'exploit sportif, notamment pour les femmes de ton pays et les femmes musulmanes dans leur ensemble. Merci encore une fois pour tout ce que tu nous as apporté. Et puis, chapeau bas, félicitations pour cet exploit sur quasiment 10 ans et sur ces 7 plus hauts sommets des 7 continents.
Merci beaucoup, Denis. Merci pour l'invitation.
Merci infiniment de votre fidélité. Quel bonheur de partager cette aventure podcast avec vous. Alors, si vous avez des remarques, des suggestions, des propositions, n'hésitez surtout pas à me contacter sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram ou encore Facebook. Si l'épisode vous a plu, profitez-en pour vous abonner, partager, laisser 5 étoiles ou un commentaire sur votre application de podcast préférée. Rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité dans Vie d'aventure. Je compte sur vous. Très belle journée.